Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir. De quelle consistance sommes-nous faits? Ou plutôt, quelle est la consistance du « nous » C'est ce qui va nous arrêter cette semaine dans Matière à penser. La grammaire dit du « nous », c'est la première personne du pluriel. Mais est-ce toujours une personne? Et est-ce vraiment un pluriel? Telle est la question qui nous occupe aujourd'hui, et pour en parler, je suis vraiment fier et très heureux de recevoir Delphine Horwiller, rabbin, directrice de la rédaction de la revue de pensée juive Ténoua. Et justement, dans son dernier livre « Réflexion sur la question antisémite » qui est paru chez Grasset, elle écrit « Nous est un abus de langage ». Et ça vraiment, ça va nous guider, ça va nous inquiéter. Bonsoir Delphine Horwiller.
Bonsoir Patrick Boucheron, merci de cette invitation.
C'est étrange, j'aurais imaginé autre chose pour toi.
Oui, c'est cette phrase que j'aime citer, qui a été pour moi, qui a eu une valeur d'entrée ou de portail dans ma vie. C'est une phrase qu'a prononcée mon grand-père quelques mois avant sa disparition. Mon grand-père a joué un rôle important dans la personne que je suis devenue, incontestablement. Il avait une formation de rabbin et je suis devenue bien plus tard rabbin. Mais à l'époque où il prononce cette phrase, je suis engagée sur une autre voie.
Vous voulez être médecin?
Oui, je veux être médecin, partir vivre au Proche-Orient, étudier la médecine. Et il me demande « Que vas-tu faire ?» Et je lui réponds cela. Et il me dit « C'est étrange. » Après un silence, il dit « J'aurais imaginé quelque chose d'autre pour toi. » Et au moment où il prononce cette phrase, bien sûr, je lui en veux, parce que je me dis que c'est...
Que vous le décevez?
Oui, mais que pourquoi est-ce qu'il piétine mes rêves de jeune fille en suggérant au détour d'une phrase qu'il y a peut-être mieux que cela ou mieux que cela pour moi? Et en fait, il m'a fallu des années pour comprendre à quel point cette phrase a été une bénédiction dans ma vie, qu'il ait pu me dire qu'il existait autre chose, un autre possible pour moi. Ça voulait dire que je pouvais encore imaginer à d'autres moments de ma vie de me réinventer, de changer de voie. Et c'est une phrase qui, en fait, m'a donné l'autorisation d'imaginer autre chose en bien des moments de ma vie, de changer de pays, de changer de voie, de changer de métier, de changer d'idée. Et aujourd'hui, je me rends compte que dans ma façon d'enseigner ou dans ma façon d'être mère, même, c'est finalement l'idée qui me semble être la plus précieuse. Je me pose toujours la question de comment je peux enseigner quelque chose à l'autre qui ne l'enfermera pas dans ce qu'il va interpréter comme étant mon attente de lui, mais une possibilité d'être que j'aurais pas fixée pour mon interlocuteur.
Donc il faut que quelqu'un imagine quelque chose d'autre pour soi-même, en fait. Et c'est peut-être ça, enseigner.
Oui, laisser des...
Ou éduquer des enfants.
C'est ça, laisser des portes ouvertes et dire à l'autre qu'il est né de nous, mais qu'il n'est pas nous, et qu'il n'est même pas ce qu'il croit qu'il est. C'est-à-dire qu'il existe toujours une possibilité pour lui de dire « je me suis trompée, je peux faire un demi-tour, je peux penser autre chose ». Mais c'est quelque chose de difficile à enseigner parce que par définition, et surtout quand on a un rapport particulier à la tradition, on va dire, et quand on veut transmettre une tradition, quelle qu'elle soit, d'une tradition de pensée ou une tradition religieuse, on a tendance à traduire cette idée de tradition comme quelque chose de fixe, comme quelque chose qui va se reproduire à l'identique d'un
temps à un autre. C'est tout le contraire pour vous. Il ne s'agit pas de faire souche, il ne s'agit pas de...
C'est ça, en fait, pour moi, c'est exactement l'inverse. C'est que je pense qu'on est qui on est quand on sait qu'on n'est plus qui on était. C'est-à-dire que quand il y a une conscience qu'on doit beaucoup au monde qui nous a donné naissance, mais que la meilleure façon de lui être fidèle, d'être dans la gratitude, c'est de l'emmener ailleurs. Alors, dans la tradition juive, il y a plein de textes qui traduisent ça de façon subtile, des moments où des élèves parlent de leur maître et font croire qu'ils ont entendu de leur maître une phrase, mais en réalité, la phrase qu'ils prononcent n'a jamais été prononcée par leur maître. En fait, ils se sont emparés de ce qu'on leur a transmis, mais ils l'ont bien sûr réinterprété et emmené dans des directions complètement nouvelles. Et en fait, pour moi, être quelqu'un qui s'inscrit dans la tradition, c'est savoir, enfin, ce que disait Derrida très justement, qu'on est toujours dans une fidélité infidèle.
Dans le portrait que vous a consacré le magazine M Le Monde, il y a une anecdote que je trouve bouleversante. C'est votre fille qui fait une synagogue en Lego Eh ben, elle fait ce qu'elle croit devoir être une synagogue, donc elle met une femme rabbin dans la synagogue, c'est normal ?
Même pas, elle l'a même pas mis. J'étais persuadée qu'elle allait placer une femme rabbin dans la synagogue, mais ce qui m'a troublée en jouant avec ma fille, donc c'était il y a quelques mois de cela, c'est qu'en construisant une synagogue, en y plaçant des bancs et des livres et une table, le seul personnage qu'elle a placé, c'était un policier devant la porte.
Parce qu'elle ne peut pas l'imaginer autrement.
Parce que sa génération, voilà, elle avait 5 ans au moment où elle joue. Maintenant, elle en a 6, ce qui change tout.
Oui.
et je réalise à ce moment-là, à vrai dire, avec angoisse, mais sans vraiment de surprise, en y réfléchissant, que c'est la seule chose qu'elle a connue, que sa génération est celle d'enfants qui ne sont jamais entrés dans une synagogue sans protection militaire ou policière. Ce qui est terrifiant, glaçant.
Et nous en sommes là. Et c'est effectivement cette consistance du nous, puisque on a parlé évidemment de l'antisémitisme. Vous avez publié, Delphine Horviller, chez Grasset, Réflexion sur la question antisémite. Vous y montrez que, d'une certaine manière, dès que ça reprend, et à l'heure où nous parlons, ça reprend, c'est un ébranlement entier, au fond, de la société qui s'annonce.
Oui. Oui, parce que effectivement, l'antisémitisme, à mon sens, on le sait historiquement aujourd'hui, c'est toujours un précurseur ou une vitrine ou une annonce d'une déferlante de violence qui transcende largement la question du juif ou de la haine du juif. On l'a vu ces dernières années de façon très, on peut presque dater ces moments où on attaque les juifs. Pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'on suppose qu'ils ont.
Oui.
Et immédiatement après, ou quelques mois plus tard, c'est toute la nation qui est frappée. Parce qu'en réalité, l'antisémitisme est toujours le nom de quelque chose de beaucoup plus grand que la haine des juifs. Mais souvent, on demande aux juifs d'en parler. Moi, ces dernières années, je compte pas le nombre de fois où on me pose la question de comment je vis cet antisémitisme, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire. Et je comprends cette question, mais à la fois, elle a toujours quelque chose d'obscène dans la mesure où moi, j'ai envie que mon interlocuteur me dise qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce que nous allons faire pour que nos enfants soient en protection.
Là, on peut le dire, on enregistre cette émission le mardi 12 février et à l'issue pour vous d'une longue journée où vous vous êtes expliqué sur les chiffres qui sont tombés aujourd'hui, 74% d'actes antisémites déclarés en 2018. Vous pensiez qu'on en serait là cette année
Non, je le disais même à mes enfants aujourd'hui même, à l'heure du déjeuner, je leur ai dit que j'étais persuadée que ma génération n'aurait pas à vivre cela. Naïvement, sans doute, mais je me souviens très clairement qu'à leur âge, je me disais que la Shoah était si proche, que le monde avait compris, que bien entendu, nous allons vivre une forme d'immunité. Et que l'antisémitisme reviendrait sans doute, mais que ma génération avait la chance d'être née en ce moment, en ce temps, peut-être une parenthèse particulière qui allait nous permettre d'être sereins. Et je ne pensais pas avoir à vivre ça, et je ne pensais pas qu'eux auraient à vivre cela. Aujourd'hui, effectivement, je suis beaucoup intervenue, on m'a beaucoup posé de questions sur ce chiffre qui veut tout dire et qui veut rien dire.
Qu'est-ce que ça veut dire,
74%, ça veut rien dire. Moi, j'ai juste pensé qu'on était aujourd'hui 74 ans après la fin de la guerre. Étrange, c'est le même chiffre, mais ça veut rien dire non plus, en réalité.
Mais ça veut juste dire qu'on est amnésique. Voir le portrait de Simone Veil outragé, enfin c'est...
Le portrait de Simone Veil balafré, l'arbre à la mémoire d'Ilan Halimi arraché.
Arraché, cisaillé.
Et donc cette idée insupportable que l'antisémitisme s'en prend aux morts, pas juste aux vivants. Ce qui d'ailleurs montre bien que dans l'antisémitisme, on n'en veut pas aux juifs pour ce qu'ils font. Contrairement à ce qu'on dit, on n'en veut pas aux juifs pour ce qu'ils ont. Contrairement à ce qu'on dit parfois, on n'en veut pas aux juifs pour ce qu'ils sont, même, puisque même lorsqu'ils ne sont plus, on continue à leur en vouloir. Donc il y a quelque chose d'incroyable dans cette haine, en réalité à nul autre pareil. Elle n'est pas plus grave ou moins grave, plus tragique ou moins tragique qu'une autre haine, mais elle est à nul autre pareil dans la mesure où on continue à en vouloir aux juifs même quand ils sont morts, parce que le juif est le nom, dans la psyché antisémite, de sa faille et le nom de quelque chose qui en fait n'a rien à voir avec les Juifs et a tout à voir avec la parole de celui qui énonce l'antisémitisme.
Et c'est de ça dont on va parler, Delphine Horviller, parce que effectivement, vous le dites, j'y reviens, « nous » est un abus de langage parce que c'est moi qui dis « nous » au nom des autres et que ce faisant, eh bien, on engage quelque chose qui est de l'ordre d'une identité. Or, ce dont on a parlé ce soir, c'est d'identité, c'est de féminité, c'est d'antisémitisme et tout ça, ce « nous », justement, ce « nous » ensemble. Alors, vous êtes la petite fille d'un silence et d'une parole. Vous avez ce dernier livre, vous le donnez, vous le dédiez à vos grands-parents, ceux qui se sont tus, ceux qui sont, dites-vous, survivants et sous-vivants, ceux qui en ont parlé, ceux qui n'en ont pas parlé.
Oui, j'ai souhaité dédier ce livre à la mémoire de mes grands-parents, qui étaient des survivants de la Shoah, qui venaient des Carpates et qui avaient tout perdu, femmes, enfants, mari, avant la guerre, et qui ont reconstitué une famille après la guerre, dans laquelle ma mère et ma tante sont nées. Et cet héritage du drame, cet héritage dramatique, il m'a été transmis dans l'enfance sur le mode du silence. Parfois, le silence, ça transmet beaucoup plus que les mots. Quelque chose d'une conscience particulière que j'avais de la tragédie, enfant, sans qu'elle m'ait jamais été racontée. Mais vous avez raison, Patrick Bouchon, en fait, quand je pense à mon enfance et à la question du « nous », je suis bien obligée d'admettre que le mot « nous » n'avait pas le même sens dans la France dans laquelle j'ai grandi. Par exemple, le « nous » des communautés. Moi, j'essaie depuis des années de dater à quel moment on a commencé à dire « nous », la communauté juive, par exemple. Ce mot de « communauté » qu'on a greffé sur les Juifs ou à un moment donné qu'ils ont revendiqué, c'est troublant parce que dans mon enfance, j'ai le souvenir clair qu'on parlait pas de « nous », de nous-mêmes, oui. Comme cela. On disait qu'on était français-juif, juif-français, on parlait de notre histoire, mais pas sur le mode d'un « nous », parce que le seul « nous » qui existait pour nous, c'était celui de la promesse républicaine, c'était le « nous » républicain, le « nous » de la nation. Et j'ai l'impression qu'on parlait...
Ce sont vos origines lorraines.
C'est les origines, parce que l'origine de ma famille paternelle, c'est ce qu'on appelle parfois des origines israélites. Vous savez, les israélites, c'est comme ça que les juifs français, hyper attachés à la République et à la laïcité, se définissaient dans un amour passionnel, une histoire d'amour incroyable avec la République. Bien sûr, c'était une autre histoire du côté de ma famille maternelle, qui, elle, était une famille d'arrachés, une famille déracinée. Une famille qui n'a jamais su se reconstruire et qui, étant survivant, de mon point de vue, était des sous-vivants et n'ont jamais pu se réinscrire pleinement dans la vie. Mais j'ai voulu, justement, en miroir à cela, aussi rendre hommage et dédier ce livre à Marceline Loridan-Ivens et Simone Veil, précisément pour ces raisons, parce que elles aussi étant des survivantes, eh bien, elles ont incarné à mes yeux une autre parole, ce que mes grands-parents n'avaient pas pu dire. À bien des moments dans ma vie, je suis allée chercher ces mots du côté de ces deux femmes ou de femmes comme elles qui ont incarné à mes yeux justement la résilience et la possibilité d'être des survivants dans tous les sens du terme. Oui. De s'engager pour la vie et pour les autres, ce que racontent très bien les parcours de ces deux femmes et encore plus l'amitié assez incroyable qu'il y avait entre elles.
Dans un beau livre, La question juive des modernes, philosophie de l'émancipation, Bruno Carsanti analyse une lettre ouverte de 1942 qui est écrite par Marc Bloch et George Friedman en réponse à un appel de l'Union Générale des Israélites de France qui avait été créé en 1941 par Vichy, obligeant tout juif à s'y inscrire. Et cet appel était justement « nous, Israélites de France ». Et refusant de se déclarer, Marc Bloch, avec Émile Benveniste, justement, le grammairien qui va expliquer que le « nous » est un pluriel incertain, eh bien, écrit une lettre, Marc Bloch écrit une lettre qui commence par ces mots « Monsieur, Israélite français, nous vous adressons à vous ». Et donc, entre Israélite de France et Israélite français, il y avait là, effectivement, déjà un nous qui vacillait.
Un nous ô combien problématique. En vous entendant lire cette citation, moi je pense à la citation d'un autre homme qui nous a quitté récemment, Amos Oz, qui est un grand écrivain israélien, qui a prononcé une phrase extraordinaire sur l'identité juive, pour le coup, et sur son rapport au nous. Il a dit, nous les juifs, nous ne pouvons pas être d'accord avec une phrase qui commence par nous les juifs. Voilà. Et cette phrase,
c'est ça l'identité juive, oui, en fait.
C'est qu'en réalité, à partir du moment où vous pensez que vous correspondez pleinement, totalement, intégralement, avec une définition dans laquelle le groupe se reconnaîtrait, eh ben, vous n'êtes plus vraiment juif. Parce que l'identité juive a toujours quelque chose à voir avec l'appartenance et la non-appartenance, avec un espèce de pas de côté, avec un groupe d'appartenance. Ce qui n'est pas sans lien avec la fureur antisémite et ce qu'on a pu reprocher aux juifs à travers l'histoire. C'est-à-dire une incapacité juive à coller à son identité, qu'on perçoit comme étant toujours une menace totalitaire, une menace violente, quand tout à coup l'individu se reconnaît pleinement, intégralement dans le nous communautaire, eh ben quelque chose en lui se perd, quelque chose se perd d'un héritage, de ce pas de côté, de je recite à nouveau Derrida, mais Derrida disait que sa définition du judaïste, c'était l'impossibilité d'être soi, c'est-à-dire toujours l'idée qu'il y a entre moi et moi, un décalage, une faille, un pas de côté. Voilà.
Et justement, cette question qui est de l'identité faillée, on va dire, elle est fondamentale pour vous parce que vous la mettez au cœur de votre réflexion sur la question antisémite qui va plonger dans ce que la Torah, ce que le Midrash dit des antisémites. Parce que il y a des antisémites. La première fois dans le livre d'Esther où les juifs deviennent juifs, ils le sont en compagnie du premier antisémite.
Oui, c'est même troublant en réalité parce que le mot juif, beaucoup de gens l'ignorent, mais le mot juif dans la Bible, il apparaît assez tard. Dans ce qu'on a, les chrétiens appellent l'Ancien Testament ou la Torah, on ne parle pas des juifs, on parle des Hébreux, du peuple d'Israël, il y a d'autres noms.
C'est-à-dire les passants.
Ceux qui traversent, voilà. Et là encore, enfin, on pourrait en parler, toutes les identités fortes de l'Ancien Testament ou de la Torah se construisent sur des héros qui s'arrachent à leurs origines. Abraham est qui il est, parce qu'il est sorti de Ur en Chaldée, et donc son identité est gagnée dans un départ, dans une non-identité au monde qui lui a donné naissance.
Il est celui qui ne reviendra pas à lui-même.
C'est le contraire du voyage d'Ulysse de ce point de vue-là. Abraham, c'est celui qui ne doit jamais revenir au monde de ses origines. Il est en chemin vers un ailleurs, exactement comme les Hébreux qui naissent en Égypte. Le peuple hébreu naît en Égypte, dans l'esclavage, mais à partir du moment où il quitte l'Égypte et se met en chemin vers la terre promise, il a l'interdiction de faire demi-tour. Et donc, c'est cette idée de la non-identité à son identité de naissance qui fonde votre identité, ce qui est assez compliqué philosophiquement. Mais c'est vrai, vous avez raison, en fait, le juif lui-même, il apparaît pas là. Il apparaît dans un autre texte, dans un texte qui raconte l'exil, oui, dans la Perse antique, le texte du rouleau d'Esther, où apparaît pour la première fois le mot juif pour définir un individu, en l'occurrence la famille de la reine Esther, un certain Mardoché. Mais à l'instant, même dans le chapitre très exactement où le mot juif apparaît, apparaît l'antisémite biblique, entre guillemets, bien sûr on ne parle pas d'antisémite, mais en tout cas celui qui incarne la tentation génocidaire, un certain Haman qui entre à la cour du roi et qui va essayer de convaincre le souverain de se débarrasser des juifs avec des arguments qui ont un caractère contemporain ou intemporel, puisque Haman dit, oui, quel est ce peuple juif qui est éparpillé parmi tous, mais différent, il est comme les autres, mais il a des lois à part. Donc toujours cette accusation du juif d'être comme les autres et pas comme les autres, oui, et d'incarner à la fois la mêmeté, le même et l'altérité, et le caractère insupportable de cette non-identité à soi, que le juif, dont le juif est le nom, pour quiconque est intégriste de l'identité, intégriste de l'infaillible, intégriste du même ou de la non-contamination. Et on voit très bien aujourd'hui qui est porteur de ce discours qu'on pourrait qualifier de intégriste de l'intégrité. Ce discours, il est présent chez tous les extrêmes, il est présent dans les voix populistes, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, il est présent au cœur de tous les fondamentalistes.
C'est la recherche de l'intégrité, écrivez-vous. Vous dites aussi parfois de l'authenticité, hein, ce qui est la même façon de faire souche avec soi-même.
Oui, ce mot, moi, me semble essentiel. La question de l'authenticité, elle est omniprésente dans le discours. Les gens s'imaginent tellement qu'il y aurait une façon d'être authentiquement soi en se débarrassant de tout ce qui nous contamine. Alors, à l'extrême droite, ce discours, il est à l'œuvre et hyper connu. La question de la contamination par de l'étrangeté ou par de l'étranger, revenir à soi, une identité authentique, intègre, qui serait celle de la France, la véritable France, ou l'Europe, ou la tradition judéo-chrétienne, et que sais-je encore. À l'extrême gauche, on va l'entendre dans les mouvances post-coloniales, beaucoup dans, notamment cette idée que l'identité indigène a été contaminée par l'Occident, ou la blanchitude, ou la blanchité. Enfin, ça se décline de façon très étrange aujourd'hui. On va le retrouver parfois au sein de certains mouvements féministes, ce qui est même surprenant. Et puis, on le retrouve chez tous les fondamentalismes religieux, parce que, comme leur nom l'indique, le fondamentaliste, c'est quelqu'un qui croit qu'au fondement, il était pur, qu'au début de son histoire, il était vraiment lui-même, parce qu'il n'avait pas encore rencontré un autre qui allait l'altérer.
Et le non-juif, pour dire comme Jean-Claude Milner, c'est une insurrection continue contre le tout-un, contre l'universel, contre l'Empire, en somme.
Oui, l'Empire, la tentation de faire un, l'idée qu'on va faire la complétude, la plénitude. En fait, il y a un épisode de la Bible qui raconte ça merveilleusement, c'est la tour de Babel.
Oui.
La tour de Babel, c'est la tentation de l'humanité
de construire une tour. On l'écoute et on en parle après. Delphine Orvillère, merci.
Pardon me for babbling con des milliers de mots. Pardon me for babbling qui t'envoie des signaux. 100 000 mots blottis au fond de mon cœur. Tout là-haut dans les étoiles pour oublier tes peurs. Tout c'est au fond de mes pensées depuis que je t'attends. Tous mes mots sont bouleversés. Je sens comme des torrents de paroles, de rires, de symphonies, de chansons. Mais ces mélodies murmurent des battements, les battements de mon cœur. Mili, 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 kama mili, mama nous, tlilim, 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 chanou, chanou.
France Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
En compagnie de Delphine Orvillère, qui vient de sortir aux éditions Grasset, Réflexions sur la question antisémite, et qui nous fait le plaisir de faire entendre Babel par Noah. Ben, nous y sommes, c'est de ça dont on parle.
Babel, c'est une histoire extraordinaire parce que dans la Bible, c'est un moment de tentation totalitaire, le moment où l'humanité veut construire une tour qui joint le ciel à la terre dans cette idée d'une toute-puissance, mais une toute-puissance qui rime avec la violence d'un projet où tout le monde parle la même langue. Et bien entendu, la tour de Babel est détruite et c'est le moment où apparaissent les langues sur la terre. On a entendu dans cette chanson que la chanteuse Noah passe d'une langue à l'autre avec un accent particulier, mais ça raconte bien la force des langages et la force de la traduction. Moi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. J'ai l'impression que si souvent, et particulièrement en ce moment, on demande aux gens de parler une seule langue. Une seule langue, bien sûr, pas le français ou l'anglais, mais une seule langue, comme si on devait habiter un seul monde. On demande aux gens, est-ce que vous êtes plutôt cartésien, ou est-ce que vous êtes religieux, est-ce que vous êtes athée, est-ce que vous croyez en quelque chose, et je trouve ça troublant, parce qu'il me semble que les moments les plus passionnants dans l'existence humaine, c'est les moments où on opère des entre-deux mondes, où on s'opère des traductions, où tout à coup on habite plusieurs univers à la fois, et les choses commencent à devenir intéressantes à ce moment-là.
C'est ce que vous ne cessez de faire, Delphine Orvillère, quand vous lisez les textes talmudiques, midrashiques, c'est-à-dire aller chercher la faille, l'entre-deux des langues, dans cette pluralité d'interprétations.
Oui, parce que c'est une posture, je crois, Patrick Boucheron, une posture qui est celle des rabbins, de se dire que le texte n'a pas fini de parler. Et moi, je suis très sensible à cette idée que le texte continue à parler tant que son dernier lecteur n'est pas arrivé. Il y a une très vieille légende rabbinique, un peu étrange, qui dit que quand on marche dans une bibliothèque la nuit, si on tend l'oreille, on entend les livres qui vous appellent. Alors, vous pouvez faire l'essai ce soir chez vous. On dit que les livres nous disent la nuit, interprète-moi. Les livres, ils disent pas « lis-moi », mais ils nous disent « attention, prête-moi ta lecture de façon à me faire dire ce que je n'ai encore jamais dit ». Parce que les livres ont un pouvoir dire qui est plus grand que leur vouloir dire. Ils peuvent dire autre chose encore, ça dépend que du lecteur. Donc il y a une puissance de celui qui est prêt à s'engager dans cet exercice. En fait, c'est presque la phrase de mon grand-père que vous me disiez, oui. Vous rappeliez tout à l'heure, c'est que on peut toujours imaginer
quelque chose d'autre.
Imaginez quelque chose d'autre que le texte n'a pas encore dit, mais il attend notre lecture pour se révéler un peu, comme s'il nous faisait un petit clin d'œil derrière une fenêtre.
Et comme Dieu a dispersé les hommes après Babel, l'humanité est devenue inextirpable. C'est ça aussi que dit la pensée juive, c'est que d'une certaine manière, elle est inexpugnable, puisqu'il y aura toujours quelqu'un sur la terre pour dire autre chose du texte.
Oui, ou pour le faire parler dans une autre langue. Et puis, de ce point de vue-là, l'hébreu est un atout considérable, dans le sens où c'est une langue polysémique, c'est une langue étrange parfois, puisque un même mot en hébreu peut dire une chose et son contraire. C'est-à-dire, même quand on ne traduit pas dans une autre langue l'hébreu, il veut parfois dire quelque chose et autre chose. Un même mot peut avoir un sens et un sens contraire, ce qui vous oblige toujours à naviguer entre des sens. J'ai toujours en tête une phrase du rabbin Marc Alain Wachnin qui dit que quand on réduit un texte à un seul sens, on le réduit à l'un des sens. Donc voilà, peut-être qu'il y a une espèce de pudeur de la lecture, une lecture qui soit décente, qui a à voir avec la possibilité de faire parler le texte encore.
Pourquoi Moïse bégaye-t-il ?
C'est troublant que Moïse bégaye. J'enseigne souvent ça, que c'est la chose la plus presque grotesque qu'on puisse imaginer. Dieu se choisit un porte-parole sur la terre.
Qui bégaye.
C'est quand même fou de se choisir un porte-parole qui est le plus, a priori, incompétent pour assumer cette tâche. Alors, le bégayement de Moïse, il n'est pas clair dans la Bible, mais en fait, la façon dont l'hébreu le traduit, littéralement, c'est que Moïse dit qu'il a la bouche alourdie. Et de quoi sa bouche est-elle lourde, exactement? Et certains midrashim, certaines littératures rabbiniques, racontent que, en fait, Moïse est lourd de son bilinguisme. Moïse, en fait, il naît hébreu, mais il grandit avec Pharaon, dans un palais égyptien. Et toute sa vie, il est tiraillé entre ses identités. Et le fait que, en fait, Moïse n'a pas de langue maternelle, puisqu'on lui a parlé à la fois l'hébreu et, bien entendu, l'égyptien dans son enfance. Et c'est comme si ce bilinguisme, on revient à Babel, d'une certaine manière, produit un poids dans sa bouche qui fait qu'il est jamais capable de parler clairement ou uniquement. Ou simplement une langue, voilà. Et cette lourdeur de parole est ce qui lui permet d'entendre comme personne d'autre n'a entendu la révélation et de transmettre comme personne d'autre ne peut transmettre un message.
Alors vous donnez des exemples d'une variété extraordinaire d'interprétations, par exemple, tout simplement, au Mont Sinaï, la loi est révélée par écrit, par oral, qu'est-ce qu'on entend? Il y a toute une gamme de commentaires jusqu'au silence, jusqu'à la lettre muette, jusqu'à l'aleph.
Oui, on dirait presque une blague en réalité, une blague juive. Que les rabbins se demandent ce qu'on a vraiment entendu au Mont Sinaï. Et c'est fou qu'on n'en ait pas une trace très exacte. Alors certains disent on a entendu toute la loi écrite, et la loi écrite et les commentaires qui l'accompagnent. Et d'autres disent on a entendu seulement les 10 commandements,
ou les 10 paroles,
ou les 2 premiers, ou même la première phrase. Certains disent on a entendu le premier mot des 10 paroles, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est libéré, qui t'est fait sortir d'Égypte. Et voilà que surgit la voix des mystiques, et les mystiques vont jusqu'à dire...
Donc la cabale
mystérieuse, qui, elle, suggère qu'au Mont Sinaï, on a entendu la première lettre du premier mot des 10 commandements, qui est la lettre Aleph.
Mais elle est muette.
Alors imaginez ça, des 600 000 âmes réunies au pied d'une montagne pour entendre ceci, c'est-à-dire rien. Mais les sages nous disent, attention, la lettre muette n'est pas exactement un silence. Elle est le bruit que fait la glotte humaine qui s'apprête à parler. Donc au Mont Sinaï, un peuple est réuni pour entendre une révélation. Et cette révélation, c'est la possibilité humaine de prendre la parole.
Qu'il y ait quelque chose. Voilà. Qu'on commence, que nous commencions.
Que nous amorcions une parole.
Que nous amorcions une parole.
La possibilité du dire, c'est la révélation du Mont Sinaï.
Mais elle sera toujours, non pas hésitante, non pas boiteuse, quoique Jacob boite. Là encore, c'est une démarche.
On est toujours dans le faillible, dans le vulnérable, dans l'incomplétude. Et celui qui boite, en fait, concrètement, c'est celui qui pourra plus jamais se tenir debout, immobile. C'est celui qui sait qu'il sera forcément dans un mouvement. Et c'est à nouveau l'idée d'une identité qui n'est pas installée. En fait, c'est l'identité de quelqu'un qui sait qu'il ne sera jamais installé. C'est une forme de non-sédentarité, un nomadisme spirituel auquel on est invité. Et ça, c'est pas un message pour les Juifs. Pour moi, c'était important d'écrire un livre qui dit ça aussi. C'est pas un message d'un entre-soi théologique juif. Je crois que chacun a des langages dans lesquels il peut exprimer ces idées-là. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment on partage ces richesses pour qu'elles nous servent aux uns et aux autres.
Ce qui est bouleversant à vous entendre, Delphine Horwiller, c'est qu'au fond, ben voilà, vous nous parlez de quelque chose qui est magnifique, qui est poignant, cette pensée de l'incomplétude. Et c'est pour cela que depuis si longtemps et si continuellement, on hait les Juifs. Précisément pour cela. Parce que cette manière de dire, vous en donnez aussi l'envers atroce dans votre livre Réflexion sur la question antisémite, qui nous, féminité et juif, puisque le juif ne peut être qu'une femme, puisque, bah oui, il est incomplet, faillé, et donc tout commence, le délire antisémite, il saigne, etc.
Effectivement, en lisant la littérature antisémite, malheureusement j'en ai lu pas mal ces derniers mois, j'ai été troublée par le fait que constamment, à travers l'histoire, on a accusé les juifs et les femmes de la même chose. On a dit des juifs qu'ils étaient hystériques ou lascifs, ou qu'ils aimaient l'argent ou la proximité du pouvoir, et qu'ils n'étaient pas fiables, et qu'ils étaient malins. Et c'est exactement ce dont on a accusé les femmes, ce dont on a accusé aussi les sorcières, à travers l'histoire. Et c'est pas vraiment surprenant, dans le sens où le féminin et le judaïsme ont en commun d'incarner bien souvent à la fois l'autre et le même. C'est celui qui n'est pas complètement autre parce qu'il a quelque chose à voir avec mes origines et qu'il est à mes côtés et que je suis issue de lui et qu'il est de ma famille. Donc il est à la fois l'autre et le même. Mais quand je suis dans une quête, encore une fois, d'une identité qui ne tolérerait aucune altération et aucune altérité, eh bien je dois tenir le féminin et le juif à distance. Il y a tellement de textes qui racontent ça, c'en est même troublant. Je cite dans le livre la nouvelle de Jean-Paul Sartre, oui. L'enfance d'un chef, qui de ce point de vue-là est une démonstration parfaite. On voit comment un individu à un moment donné va se définir et faire de l'antisémitisme sa colonne vertébrale. Et quand ce personnage principal de la nouvelle affirme qu'il est antisémite, simultanément il déclare qu'il épousera une femme vierge et qu'il portera la moustache. Alors ça prête à sourire, même, mais cette démonstration d'une sorte de crise de virilité, d'ailleurs, qui a souvent dans l'histoire marché main dans la main avec des moments d'antisémitisme. Beaucoup de gens ont décrit ça, je pense à Elisabeth Badinter et beaucoup d'autres qui racontent qu'au moment où le nazisme monte en Allemagne, on est simultanément dans un moment d'une forme de crise de virilité où l'émancipation des femmes apparaît à une partie de la population comme insupportable. Voilà. Et on voit encore aujourd'hui voilà, comment l'émancipation des femmes, éventuellement la question aussi de l'homosexualité dans la société et de l'antisémitisme, se tiennent la main. Et dans les insultes aussi qu'on voit apparaître sur les murs, aujourd'hui c'est incroyable comme ces haines-là se tiennent la main parce qu'elles racontent un peu la même chose.
Plus juive, oui. Ouais. Plus juive.
Voilà, toujours l'homophobie, l'antisémitisme et la misogynie marchent main dans la main. Bien souvent, celui qui l'énonce est loin d'en être conscient.
On disait Léon Blum qu'il était une femmelette.
Voilà, qu'il avait une voix de gonzesse, de femme, comme on a dit au Moyen Âge. Ça peut paraître surprenant aux oreilles des modernes, mais au Moyen Âge, il y avait cette conviction que les hommes juifs avaient leur menstruation tous les mois, parce que bien entendu leur corps ne pouvait pas être complet, il incarnait la porosité, quelque chose de défaillant, d'ouvert.
Vous parliez de Sartre, évidemment vos réflexions sur la question antisémite répondent à ces réflexions sur la question juive dont l'incipit est célèbre. Le juif est un homme que les autres hommes tiennent pour juif, voilà la vérité simple d'où il faut partir. Mais, là encore, on croirait vraiment une blague juive, l'édition que lit Jacques Derrida comporte une étrange coquille. Le juif est une homme.
J'étais moi-même sidérée en découvrant cela. Jacques Derrida raconte effectivement qu'il y a une coquille dans ce qu'il lit. Une homme, c'est incroyable. Si on était complotiste,
donc les juifs sont des femmes, comme
les autres.
C'est ça. Et c'est pourquoi, alors, il faut dire, Delphine Horweiler, que vous avez publié « En tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme » en 2013, « Comment les rabbins font les enfants, sexe, transmission, identité » dans le judaïsme en 2015, toujours chez Grasset. C'est votre objet, mais vous ne voulez pas qu'on vous dise féministe juive, vous êtes féministe et juive. C'est très important de les distinguer parce que, justement, c'est solidaire, en somme.
Oui, et je pense qu'il y a un malentendu quand on déclare qu'on est féministe juive ou féministe musulmane, c'est que bien souvent, ça revient à dire que le féminisme est dans le texte, ce qui en fait est une malhonnêteté, me semble-t-il. Et faire preuve de bonne foi, ça veut dire être un lecteur honnête et reconnaître que non, nos textes, ils sont pétris de patriarcat, bien entendu, et d'un temps où les femmes n'avaient pas la possibilité d'exister politiquement, d'avoir une parole ou une parole érudite. Et donc, moi, je pense que mon féminisme et mon engagement féministe, il me donne des outils nouveaux de lecture, des outils de lecture critique pour ma tradition qui, à mon sens, sont enrichissantes et bénéfiques pour ma tradition religieuse. Mais il y aurait une malhonnêteté intellectuelle à supposer que le féminisme est là dans nos textes. En fait, c'est une facilité, à mon sens, qui est tout aussi absurde que quand les gens vous disent voilà, l'islam est une religion de guerre, l'évangile est une tradition de paix. En fait, il y a une façon de réduire le texte ou une tradition à une seule possibilité de dire qui me semble être extrêmement contre-productive et surtout qui déresponsabilise le lecteur. En fait, nous avons la responsabilité de faire de nos textes des lectures de vie. Beaucoup aujourd'hui en font des lectures de mort, des lectures mortifères, mais il est en notre possibilité, quelle que soit notre tradition, d'opérer d'autres lectures avec un minimum de bonne foi et d'intelligence.
Parce qu'il y a plusieurs manières d'être juif et d'être musulman, c'est le titre du livre que vous avez écrit avec Rachid Benzine.
Il y a mille et une manières, voire plus. On avait fait un petit clin d'œil, bien sûr, aux mille et une nuits dans ce texte, où d'ailleurs, de façon intéressante, les mille et une nuits nous enseignent que la seule façon de sortir d'un temps de violence et de sang qui coule, c'est le récit d'une femme. C'est-à-dire que le récit de Scheherazade, la possibilité que la voix du féminin se fasse entendre est la seule voie de sortie de la violence insoutenable du récit. Il y a effectivement bien des façons d'être juif, bien des façons d'être musulman, mais tout contribue aujourd'hui dans ce contexte de crispation identitaire et de repli communautaire à nous le faire oublier. En fait, je ne compte pas le nombre de fois ces dernières années où j'ai dû commencer une prise de parole en disant « je ne suis pas que juive, mon judaïsme dialogue avec bien d'autres éléments de mon identité ». Et il n'existe pas une façon monolithique d'être juif. Aujourd'hui, on a l'impression que quand les gens parlent, ils suggèrent que les juifs s'habillent d'une certaine manière, pensent ou votent d'une certaine manière, ont un rapport à Israël qui est tous le même. Et c'est incroyablement appauvrissant et simplificateur. Donc il faut replacer de la complexité dans nos définitions identitaires, mais c'est difficile à faire en un temps où il y a une passion absolue pour la simplification à travers les réseaux sociaux ou les théories du complot, on le voit bien.
Oui. Alors en France, on vous dit toujours, alors, comment faut-il vous appeler, Madame le Rabbin, Madame la Rabbine, enfin voilà. Ça vous étonne, cet étonnement, parce que vous avez aussi appris et enseigné aux États-Unis, où le judaïsme libéral est beaucoup plus ordinaire.
C'est vrai, quand je vivais à New York, il y a quelques années, et quand j'étudiais aux États-Unis, j'avais l'impression que c'était plus une question. Alors d'abord, bon, la question du genre ne se posait pas aux États-Unis parce que le terme est neutre. On dit rabbi sans se poser la question de savoir si on s'adresse à un rabbin homme ou femme, mais c'est devenu une norme. L'année de mon ordination rabbinique, on était autant de femmes que d'hommes à recevoir ce titre de rabbin au cœur du séminaire où j'étudiais. Et quand je suis rentrée en France, j'ai eu le sentiment de faire non pas un voyage dans l'espace, mais un voyage dans le temps, d'une certaine manière. l'impression que on était et on reste d'une certaine manière encore coincé dans des questions d'un conservatisme religieux très important dans notre pays. Ce qui peut sembler surprenant parce qu'on est un pays progressiste de mille manières, mais la pensée religieuse extrêmement conservatrice dans notre pays, ça a peut-être à voir avec un héritage ou une majorité catholique dans notre pays. Je dis souvent sur le mode de la plaisanterie que le judaïsme français est catholique et que le judaïsme américain est protestant, oui. Dans le sens où cette part de culture majoritaire influence la façon dont les paroles se structurent aussi, quelque chose d'une parole centralisée des religions en France, qui a notamment été instaurée par Napoléon aussi, la volonté qu'il y ait un représentant qui parle pour les juifs de France, a quelque chose à voir avec ça, mais c'est intéressant de se poser la question de pourquoi notre pays progressiste encourage paradoxalement des voies religieuses très conservatrices.
Très conservatrices. Et c'est aussi peut-être affaire de traduction, parce que il faut lire votre livre « Réflexion sur la question antisémite ». Je ne dis pas qu'il est drôle et léger, mais je dis qu'il est enthousiasmant, parce que on y voit effectivement la capacité de la tradition à se gloser. Et puis voilà, il y a une énergie qui vient arracher toujours cette question de l'identité à ses évidences. Par exemple, vous dites... C'est une question de traduction, encore une fois, que, eh bien, peuple élu traduit bien imparfaitement l'hébreu Amségoula.
Oui, c'est un autre malentendu. Très souvent, au cœur de la rhétorique antisémite, on entend reprocher aux juifs cette idée d'une élection qui, chez certains, apparaît comme une forme d'arrogance ou de supériorité affichée. Ce qui est troublant, c'est que la tradition juive interprète pas comme ça,
pas du tout comme ça.
L'élection. Freud disait, et je trouvais c'est très drôle cette remarque, il disait que ce qui est troublant avec la notion de peuple élu, c'est que les antisémites y croient beaucoup plus que les juifs. C'est-à-dire que ça prend une part incroyable dans la pensée ou dans la psyché antisémite, alors que pour les juifs, c'est rarement interprété comme une forme de supériorité, c'est plutôt le sens d'un devoir et non pas d'un droit supérieur.
Et même la souffrance ne donne aucun droit.
Aucun droit, et c'est quelque chose qu'il est bon de rappeler aujourd'hui dans un temps de compétition victimaire où certains s'imaginent que le fait d'avoir souffert vous donnerait une sorte de titre de noblesse ou une place au soleil dans un panthéon. Je ne sais pas, c'est très troublant de voir à quel point on envie aujourd'hui, de façon si malsaine, la place de celui qui a souffert. Et de ce point de vue-là, c'est comme si la souffrance juive, aux yeux de certains, elle prenait trop de place, comme si c'était insupportable que le juif puisse, à leurs yeux, continuer d'incarner celui qu'on a fait souffrir. Marceline Loridan-Ivens, qui nous a quitté récemment, disait que les antisémites ne pardonneront jamais aux juifs le mal qu'ils leur ont fait.
Oui. Et pourtant, ça veut dire quoi, Amségoula? Ça veut dire Amségoula, peuple trésor?
Oui, il y a cette idée dans ces goûts-là de trésor, de distingué ou de distinguant. C'est-à-dire le peuple qui est capable d'opérer des distinctions, qui est capable de ne pas s'inscrire dans un tout globalisant et peut-être dans un tout totalisant, un tout totalitaire. Il y a une mission que le peuple juif se fixe, qui est celui de toujours créer des séparations, d'opérer des distinctions, ce qui est extrêmement présent dans les rites du judaïsme. Vous savez, on distingue le jour du Shabbat du reste de la semaine, on va distinguer le lait de la viande, et parfois les hommes des femmes, et donc il y a une capacité à toujours placer des limites, comme si la conscience des frontières et des zones liminales était nécessaire dans l'existence. Donc c'est une traduction possible, mais le mot Amségoula peut aussi être traduit, si on regarde dans un dictionnaire, Ségoula, ça peut aussi vouloir dire thérapie, voilà, un peuple de la thérapie. Alors je ne sais pas ce qu'en diraient les psychanalystes de cet héritage juif qui est parfois mis en question, mais en tout cas il y a toutes ces notions qui sont présentes dans un terme qui reste du domaine de l'indéfini. Il y a toujours quelque chose dans sa définition qui nous échappe, parce que, encore une fois, il n'a pas fini de dire.
Merci Delphine Horviller.
Merci beaucoup Patrick Bouchon.
Matière à penser, Delphine Horviller, Stéphane Desmond, Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, je reçois un anthropologue, mais aussi un poète. C'est Éric Chauvier. Bonne soirée.
joue pour toi. Il est terrible, cet air-là.
J'espère que tu